Bonjour Romain Corneille.
Bonjour Franceline, bonjour.
Nous revenons donc ce matin avec notre invité sur le premier bilan que l'on peut dresser du gouvernement.
Bonjour Jean Fagnel.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur du Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Alors on va effectivement, alors que débutent les vacances parlementaires, essayer de faire un petit bilan après quasiment 10 mois de gouvernement Michel. Une coalition de centre-droite inédite avec une opposition de gauche tenace mais paraissant malgré tout impuissante à stopper le train des réformes adoptées en fin de semaine dernière, on le rappelle, report de l'âge de départ à la retraite, glissement fiscal, contrôle inopiné des chômeurs, ajustement budgétaire avec des économies annoncées dans les services publics et la sécurité sociale. Est-ce que vous diriez, Jean Fagnel, que ces mesures marquent clairement un ancrage à droite ou est-ce qu'il faut un peu nuancer ?
Alors, je pense effectivement qu'on peut constater que c'est un gouvernement de droite. Il l'assume. Il est composé de gouvernements, de partis, pardon, qui sont effectivement des partis clairement ancrés à droite ou au centre droit. C'est un gouvernement qui a pris des mesures qui vont plutôt dans le sens de favoriser certaines composantes de la société, certains groupes sociaux. Et donc, assez clairement, la vision qui sous-tend la politique du gouvernement fédéral, du gouvernement de Charles Michel, c'est une politique qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises et donc à diminuer, à réduire ce qu'on nomme généralement les charges des entreprises. Et donc on l'a vu notamment avec la décision de faire passer les cotisations patronales de sécurité sociale de 33% à 25% de manière linéaire. On a vu aussi l'introduction de mesures davantage de flexibilité en matière de travail, la modération salariale également avec le sous-index par exemple, ou bien une politique qui à la fois dans la sécurité sociale et dans d'autres départements du budget de l'État cette fois, est une politique qui vise à faire des réductions de dépenses plutôt qu'à lever de nouveaux impôts, ce qui est aussi une des caractéristiques, si on regarde l'histoire de la fiscalité au XXe siècle, plutôt une des caractéristiques de ce que font les gouvernements marqués à droite.
Mmh. Donc sur le plan socio-économique, c'est un peu quand même une rupture. Hein. C'est peut-être la fin de ce traditionnel compromis entre partis de gauche, partis de droite qui se retrouvaient ensemble et qui finalement conduisaient à des politiques qui se jouaient plutôt au centre.
Alors, c'est une rupture sur certains aspects, mais c'est un gouvernement qui se place également dans la continuité à d'autres égards. Il est vrai que jusqu'en 1999, on avait l'habitude de voir en Belgique une alternance de gouvernements de centre-gauche ou de centre-droite. On avait eu les équipes Martensgold de 1981 à 1987, puis on a eu les gouvernements Alliance socialiste et socio-chrétien, parfois notamment avec la Volksunie, dans la décennie, les 10-12 années qui ont suivi. Et depuis 1999, c'est vrai qu'on s'était habitué à avoir des gouvernements dans lesquels et les partis libéraux et les partis, ou en tout cas le parti francophone du côté socialiste, étaient ensemble au pouvoir, soit avec ces deux familles politiques, soit avec les écologistes, soit avec les chrétiens démocrates. Ici, c'est vrai qu'après 15 années de gouvernement comme ça qui alliait centre-gauche et centre-droite, on en est revenu à un gouvernement qui est plus marqué sur le clivage gauche-droite. Alors, on est ici dans la rupture sur certains points. On est également dans la continuité, je le disais, sur d'autres aspects. Si on regarde par rapport au gouvernement précédent, qu'il s'agisse du gouvernement Di Rupo, qu'il s'agisse des deux gouvernements Le Terme, du gouvernement Van Rompuy, des gouvernements Verhofstadt, etc., on est dans une continuité puisque d'une part, et ça c'est une constante maintenant depuis, disons, 2009-2010, ce sont des gouvernements qui, pour atteindre l'équilibre budgétaire, pratiquent des politiques que l'on peut qualifier de politique d'austérité à différents degrés, mais ça c'est une constante. On a vu également que les gouvernements précédents préconisaient l'allongement de la durée de la carrière. Sont également des gouvernements qui ont mis en place une forme de modération salariale, qui ont réduit les allocations de chômage ou fait des coupes dans les soins de santé de manière plus ou moins marquée. dans les services publics aussi, ou bien si on compare avec le gouvernement d'Irupo, par exemple, qui ont réorganisé la justice de manière assez importante, ou qui ont mené une politique d'asile et de migration relativement dure.
Est-ce que le Parti socialiste, dans son opposition, s'est repositionné plus à gauche, puisque vous nous dites que finalement, il avait quand même amorcé un certain nombre d'orientations en termes de rigueur budgétaire, par exemple?
Mais justement, c'est peut-être ça qui fait évidemment la difficulté pour les partis de l'opposition qui ont participé à la majorité précédente, c'est-à-dire les socialistes francophones et flamands, donc du SPA, ou bien peut-être aussi, dans une moindre mesure, du CDH. C'est qu'on est effectivement dans une certaine continuité. Maintenant, il y a également des points de rupture qui sont assez nets. Je le disais, il y a la question de la modération salariale, mais ce gouvernement, le gouvernement actuel, le gouvernement Michel, a décidé de procéder à un sous-index. Or ça, clairement, les partis socialistes francophones et dans une moindre mesure flamands s'y étaient opposés de manière assez farouche. Donc là, on a une rupture qui leur a permis évidemment de se positionner cette fois dans l'opposition en argumentant que c'est un gouvernement qui va nettement plus loin, et ce n'est pas faux d'une certaine manière, que le gouvernement d'Irupo. Même chose avec la question de l'allongement de la carrière. On était dans une perspective d'allongement de la carrière, mais ce que le gouvernement Michel a fait, et symboliquement évidemment c'est très important, et pas seulement symboliquement d'ailleurs, c'est jouer sur l'âge de la retraite en le reportant à 66 et progressivement 67 ans. Ou bien la question qu'on a évoquée, qui est maintenant actée avec les derniers projets du gouvernement, la réduction linéaire et sans condition mise à l'embauche des cotisations patronales. Ça, c'est également quelque chose que le gouvernement précédent n'avait pas fait. Et donc ce sont des mesures sur lesquelles le Parti socialiste, par exemple, peut porter ses critiques, tout en étant évidemment dans une situation qui est parfois un petit peu délicate, dans la mesure où il a partagé en partie cette philosophie de réforme quand il était au pouvoir au niveau fédéral.
Et c'est effectivement une prise de risque pour le gouvernement Michel, puisque si les créations d'emplois ne sont pas là au bout du compte, on lui en tiendra rigueur. Ce qui est frappant aussi, Jean Fagnel, c'est que les débats communautaires auxquels on était vraiment habitués semblent avoir été complètement mis en sourdine. On n'en parle plus trop des conflits communautaires.
Alors effectivement, c'est vrai que c'était la grande inconnue, hein, puisque on avait des partis qui, y compris l'EMR, disaient pendant la campagne électorale on ne veut pas s'allier à la NVA, et on sait que Charles Michel a indiqué s'être trompé sur le sort, sur les intentions de la NVA. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que ce gouvernement soit délicat pour les francophones. Il faut quand même rappeler que c'est une situation inédite, puisque on est dans un cas de figure où il n'y a qu'un seul parti francophone face à trois partis néerlandophones qui forment la majorité, et que ce parti francophone est largement minoritaire au sein de ce gouvernement, dans les soutiens parlementaires à ce gouvernement. Il y a évidemment la parité linguistique qui est respectée au sein du Conseil des ministres.
On a beaucoup dit que le MR allait se brûler les ailes, que cette alliance avec la NVA, il la regretterait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il en sort malgré tout renforcé, ou bien ça reste
compliqué? On parlait de kamikaze, il faut s'en rappeler. Ici, on est dans une situation où ce gouvernement, après 10 mois d'activité à peu près, montre qu'il tient la route. C'est un gouvernement qui a fait face à un conflit social assez important. Si on revient à l'automne, en octobre, novembre et jusqu'au mois de décembre, c'est un gouvernement qui est parvenu à passer à travers les gouttes, qui est également parvenu à mettre au placard d'une certaine manière les questions communautaires. On a eu quelques polémiques au début sur Théo Franken, Yann Yambon, par exemple, mais ça s'est relativement rapidement estompé. Maintenant, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il n'y a pas du tout de communautaire? Dans un pays comme la Belgique, évidemment, on sait que c'est toujours délicat d'écarter les dimensions communautaires. D'abord parce que du côté francophone, on reste attentif aux intentions de la NVA. Est-ce que la NVA, jusque 2019, la fin de la législature, va va parvenir à rester sur cette ligne de mettre le communautaire au frigo, ou bien est-ce qu'elle va affûter ses armes pour revenir en 2019 avec une proposition de réforme de l'État. Mais il faut rester bien clair là-dessus. De toute façon, la NVA n'est pas en mesure d'opérer une réforme institutionnelle ou constitutionnelle à elle seule.
Elle n'a pas renoncé en tout cas à ses objectifs de confédéralisme. Vous n'excluez pas qu'elle revienne avec une campagne électorale axé là-dessus lors de la prochaine échéance.
Non, mais je pense qu'elle est consciente aussi qu'il lui faudra un rapport de force, y compris en Flandre, pour pouvoir avancer la volonté d'une nouvelle réforme institutionnelle. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de communautaire non plus dans l'action de ce gouvernement. La problématique du vieillissement, le poids des pensions, on sait que d'un strict point de vue démographique, c'est une question qui taraude davantage la Flandre que la Wallonie ou Bruxelles.
Est-ce qu'on peut dire que les réformes socio-économiques adoptées vont davantage profiter à la Flandre? C'est ça que vous voulez dire?
Pour certaines, on peut le penser au moins partiellement. On peut prendre un autre exemple. C'est celui du chômage. Quand on restreint l'accès des jeunes aux allocations d'insertion, donc allocations qu'on reçoit avant d'avoir droit à des allocations de chômage à proprement parler, il est clair que c'est une mesure qui frappe davantage du côté wallon et du côté bruxellois, là où le chômage des jeunes est plus important ou même très important. On a vu il y a 2-3 semaines l'interview de Benoît Lugène qui expliquait que lorsqu'il a participé au début de la formation du gouvernement fédéral, quand le CDH était associé à celle-ci et avant qu'il refuse d'aller plus loin en la matière, il y a eu un échange apparemment avec Bart De Wever qui lui a clairement fait comprendre que les intérêts notionnels ne seraient pas revus parce qu'ils avantagent davantage la Flandre que les entreprises qui sont situées en Wallonie ou à Bruxelles. Effectivement, jusqu'à présent, on a vu que les intérêts notionnels n'ont pas été modifiés. En même temps, vu la composition du gouvernement, on revient à ce qu'on disait au début de l'interview avec le caractère marqué à droite de ce gouvernement, il n'est pas surprenant non plus que les intérêts notionnels n'aient pas été supprimés, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient revus dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas été le cas. Il y a évidemment la taxe diamant qui là a fait couler pas mal d'encre parce que on a l'impression que c'est une taxe qui va profiter essentiellement à la Flandre et même
à
une partie de la Flandre à Anvers.
Bart De Wever agissant dans l'ombre, tirant les ficelles, c'est une image que du côté d'écolo, du Parti socialiste, on aime bien mettre en avant cette idée que finalement, c'est sûr que la NVA c'est le poids lourd politique de ce gouvernement, mais qu'il y a une très forte influence évidemment de Bart De Wever. Est-ce que c'est caricatural ou il y a du vrai quand même?
Avec un parti qui a 33 sièges sur les 85 de la majorité, on ne peut pas complètement lui reprocher. Je veux dire, il a un rapport de force pour lui. C'est le premier parti de Flandre depuis 2010. Il a largement conforté sa position lors du scrutin de 2014. Et pourtant, il reste relativement discret finalement au sein de la majorité, avec relativement peu de portefeuille numériquement par rapport à ce que le MR a obtenu, vu que le MR est la seule composante francophone. Évidemment, ce sont des portefeuilles de poids. Les finances pour Jan van Overtveld, la défense ou bien la fonction publique pour Steven van de Put et évidemment l'intérieur, la sécurité et l'intérieur pour Jan Jambon, plus deux secrétaires d'État. Donc c'est clair que ce sont des portefeuilles qui sont des portefeuilles importants, mais la NVA a joué plutôt un rôle qui n'est pas un rôle de premier plan. Et donc, évidemment, ça alimente encore plus les suspicions quant au fait que c'est Bart De Wever qui tire les ficelles dans l'ombre. Et je le dis, avec un rapport de force qui, effectivement, lui permet partiellement de faire cela. On a vu aussi, ces tout derniers jours, dans la question du virage fiscal, que la NVA n'obtenait pas non plus satisfaction sur toute la ligne, donc elle-même doit accepter certains compromis, au moins à la marge, même si l'ensemble des partis semble relativement d'accord sur les principales mesures.
Jean Fagnel, on poursuit ce bilan tout à l'heure à 8h40 avec les questions, les réactions des auditeurs, et vous pouvez nous appeler Franceline au 02 737 33 33.
Et nous faisons le bilan de la question matin première. Vous réagissez sur le bilan du gouvernement de Charles Michel, le gouvernement qui a fait passer ses principales réformes ces dernières semaines. Les responsables politiques sont donc partis en congé avec le sentiment du travail bien fait. Pour réagir à vos commentaires, à vos analyses, nous sommes toujours avec Jean Fagnel, le directeur du CRISP, en direct depuis nos studios de Liège. Jean Fagnel, je vous propose d'écouter cette première réaction d'un auditeur.
Bonjour, moi je suis Madame Ingels, j'habite à Bénézé. Je trouve que ce gouvernement s'y tient à la route. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Mais moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la TVA à 33% sur les produits de luxe. Je trouve curieusement d'augmenter l'électricité et taxer, je veux dire, certaines choses que le peuple a besoin. Taxer, mettons les maisons à plus de 100 000 euros par mois. Et là, je pense que le gouvernement devrait quand même réaliser que l'électricité, l'eau et le gaz, ce sont des produits que le peuple a besoin. Qu'ils arrêtent un petit peu de taxer tout ce qui est pour les petits, quoi. Quitte